Merci d'être fidèle à RFI, 16h à Paris, 14h à Nouakchott et en temps universel.
Baptiste Coulon.
Les Mauritaniens élisent leur président, les bureaux de vote ont ouvert ce matin et le président sortant espère bien briguer un nouveau mandat. Élections législatives cette fois en France, le vote a lieu demain en métropole comme en Nouvelle-Calédonie où il a fallu s'adapter pour organiser le scrutin alors que l'archipel est toujours en proie à des tensions. Nous serons aussi en Allemagne dans ce journal, le congrès de l'AFD, le parti d'extrême droite, se tient dans un climat tendu, dans la rue comme en interne. Et nous terminerons par Avignon, en France, où s'ouvre la grande fête du théâtre, le Festival d'Avignon. On vous donne le programme de la soirée en fin de journal. Près de 2 millions de Mauritaniens appelés aux urnes, élections présidentielles. Le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Razouani est candidat à sa réélection. Il espère briguer un deuxième mandat. Face à lui, 6 candidats qui promettent d'incarner l'alternance démocratique. Plus de 4000 bureaux de vote ont ouvert ce matin. Notre envoyée spéciale, Léa Lisa Vesteroff, s'est rendue dans le quartier populaire de Sebka, précisément dans une école primaire transformée en centre de vote. Reportage.
Dans la cour sablonneuse de cette école primaire, ils sont plus de 200 à patienter sur plusieurs files indiennes. Cet électeur attend depuis presque 2 heures déjà, mais qu'importe.
C'est un moment crucial, parce qu'on doit élire un président. Un président, c'est pas n'importe qui. C'est quand même quelque chose de très important que tout le monde doit faire son devoir civique.
88, Hawa Alpha.
Même son de cloche et cette femme de 30 ans vêtue d'une mélafa rouge, le voile mauritanien.
C'est un devoir d'un citoyen d'aller voter, de se présenter, de voter, de faire son devoir en fait.
Cet autre électeur est venu très tôt.
Parce qu'aujourd'hui il va faire très chaud à 40 degrés, donc pour le moment tout ça se passe très bien. J'espère qu'à la fin les PV seront affichés et tout va être normal.
L'affichage des procès-verbaux devant chaque bureau de vote prévu par la loi est une demande forte de l'opposition. Cette infirmière promet de revenir ce soir, vérifier.
Reportage de Léa Lisa Vesteroff. Les premiers résultats de cette élection pourraient tomber samedi dans la soirée. L'annonce officielle, elle, pourrait être annoncée dimanche ou lundi. Les Iraniens, de leur côté, ont à nouveau rendez-vous aux urnes. Deuxième tour de l'élection présidentielle fixée le 5 juillet. C'est officiel depuis ce matin. Deux candidats vont s'affronter. Un réformateur, surprise du premier tour, il s'appelle Massoud Pezeshkian, et un ultra-conservateur, Saïd Jalili. Et à nouveau, l'abstention sera scrutée après un premier tour où la participation n'a jamais été aussi faible depuis la création de la République islamique en 1979. L'Iran qui met en garde Israël contre une attaque au Liban, mise en garde de la mission iranienne auprès de l'ONU, tous les membres de l'axe de la résistance pourraient se mobiliser si l'État hébreu lançait une offensive à grande échelle contre le Hezbollah libanais. Toutes les options sont sur la table. Les échanges de tirs se multiplient à la frontière entre Israël et le Liban depuis le début de la guerre à Gaza. La guerre à Gaza qui a fait 37 800 morts d'après un nouveau bilan communiqué ce samedi, annonce le ministère de la Santé du Hamas. On vote dès aujourd'hui en France pour les élections législatives anticipées. C'est le cas dans les Antilles, à Saint-Pierre-et-Miquelon, où les bureaux de vote ont ouvert il y a quelques heures. Ce sera le cas demain en France métropolitaine. D'ici là, c'est silence radio, plus de tracts et de réunions publiques pour les candidats, plus d'interviews politiques non plus dans les médias, c'est la règle la veille du scrutin. La Nouvelle-Calédonie aussi s'apprête à voter demain dimanche. Police et gendarmerie seront mobilisés pour sécuriser les opérations, car l'archipel est toujours en proie à des tensions importantes. Alors sur place, il a fallu s'adapter. L'organisation du scrutin a été revue. Reportage de Charlotte Manvie.
À la veille du scrutin, toujours pas un panneau électoral en vue dans les rues de Nouméa et pas une affiche de candidat. Comme pour les européennes, il y a 3 semaines, la logistique du scrutin a été réduite au minimum. Alain Bouffnèche, directeur de la vie citoyenne de la commune.
Les ateliers municipaux de la ville ont été pillés, brûlés. Plus d'un tiers de la flotte de nos véhicules sont tombés en cendres. Donc on n'a pas aujourd'hui les moyens matériels pour pouvoir mettre en place ces panneaux d'affichage.
À Nouméa et dans les communes de sa banlieue, les plus touchées par cette semaine de violence, les bureaux de vote ont été regroupés. Il est en effet toujours difficile de circuler dans de nombreux quartiers où les barrages déblayés la nuit par les forces de l'ordre sont remontés au petit matin. La sécurité sera, elle, renforcée aux abords des bureaux de vote. Louis Lefranc, haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
S'il y avait des éléments individuels ou collectifs qui voulaient s'opposer à l'exercice du droit de vote qu'ont les électeurs calédoniens, eh bien, moi, je prendrai mes responsabilités.
Les Calédoniens de tous bords politiques semblent en tout cas bien avoir l'intention d'aller voter. Depuis lundi, il a fallu installer une tente et des chaises devant le commissariat central pour accueillir tous ceux qui veulent établir une procuration. Et ils sont nombreux. Aucun transport en commun ne fonctionne sur le territoire. Alors Priscilla patiente, car elle ne pourra pas retourner dans son île de Lifou.
Moi, je vote sur Lifou. En ce moment, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateau. Ça fait que j'ai fait la procuration pour que les autres sur Lifou y votent.
Aucun parti n'a appelé au boycott des urnes dimanche. Les rassemblements ont toutefois été interdits par le représentant de l'État. Charlotte Manvi, Nouméa, RFI.
Et c'est dans ce contexte électoral qu'une marche blanche en mémoire de Naël a lieu en ce moment même à Nanterre, près de Paris. Naël, 17 ans, tué par un tir de policier à Nanterre, près de Paris, donc lors d'un contrôle, c'était il y a un an. Sa mort avait provoqué plusieurs nuits d'émeutes en France. En Allemagne, ouverture aujourd'hui du congrès de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. Cela se passe à Essen, dans l'ouest du pays, 3 semaines après les élections européennes où l'AfD est arrivé en deuxième position derrière les conservateurs, réalisant au passage son meilleur score depuis sa création. Le congrès se tient sous haute tension, quelques violences et des arrestations enregistrées par la police. Un congrès tendu aussi en interne, au sein même du parti entre les plus radicaux et ceux qui se qualifient de modérés. Romain Le Maresquet.
600 délégués de l'AfD ainsi que plus de 600 invités sont attendus pour les 2 jours du congrès de cette formation d'extrême droite. Un congrès au cours duquel il sera question notamment de changer le mode de direction bicéphale. En effet, une motion a été déposée pour que désormais un seul président, flanqué d'un secrétaire général, gère le parti. Actuellement, l'AfD est dirigée par Maximilian Kra et Tino Chrupalla, c'est-à-dire un membre de la branche la plus radicale et un membre considéré comme modéré. Et si la motion proposant le changement de mode de direction est approuvée, les deux camps pourraient bien s'affronter pour prendre la main sur le parti. Car depuis plusieurs mois, les déclarations des plus extrémistes sont mal perçues par une partie des membres de l'AfD qui plaident pour changer d'approche en se professionnalisant comme le Rassemblement National Français, une sorte de dédiabolisation qui pourrait permettre à cette formation d'élargir son électorat. La question aussi de la place de ce parti au Parlement européen divise. Les plus radicaux souhaitent créer un nouveau groupe d'extrême droite après leur exclusion du groupe ID, Identité et Démocratie, alors que les plus modérés souhaite au contraire rejoindre les autres formations d'extrême droite des pays membres dans un large groupe qui aurait plus de poids au sein de l'institution européenne.
Romain Le Maresquet. Après le Sénégal, le Togo va à son tour dépister les pèlerins de retour de la Mecque, dépistage du Covid-19. En plus de ce test, ils devront limiter les contacts, éviter les rassemblements pendant 10 jours. Le pèlerinage cette année a viré au drame, plus de 1300 morts en raison de très fortes chaleurs, selon les autorités saoudiennes, plus de 50 degrés. Mais des observateurs estiment qu'un certain nombre de ces décès pourraient être liés au Covid-19 contracté par les pèlerins sur place. C'est aujourd'hui en France que s'ouvre le festival d'Avignon, ouverture ce soir dans la cour d'honneur du Palais des Papes, comme il se doit, avec un spectacle de la performeuse espagnole Angelica Lidell qui rend hommage au cinéaste suédois Ingmar Bergman. Mais l'ouverture se fait aussi en fin d'après-midi, tout à l'heure dans un stade de football où le chorégraphe Boris Charmatz mêle près de 200 amateurs et professionnels. Un spectacle gratuit qui s'intitule Cercle. Muriel Mahalouf s'est rendue aux répétitions avec Victor Hull.
Essayez des choses.
C'est un spectacle généreux que propose Avignon en cette ouverture du festival à la veille du premier tour des législatives. Gratuit avec près de 200 interprètes.
Il y a des danseurs professionnels évidemment et puis des danseurs amateurs qui viennent vivre une expérience collective aussi face au monde et face à l'adversité pour être ensemble, se serrer les coudes dans le mouvement. Je trouve que c'est pas mal de lever le poing ensemble, voilà.
Un spectacle intitulé Cercle, Boris Charmatz, chorégraphe.
Est-ce que le cercle, c'est une communauté fermée? Ou est-ce que c'est un cercle qui peut parler aux gens qui regardent? Et j'ai l'impression que quand on les voit, ces 200, c'est aussi un cadeau, en fait. Et qu'on aille à la cour d'honneur, qu'on vienne là sur notre terrain de foot, qu'on aille ailleurs, le Festival d'Avignon, c'est typiquement quelque chose où le public, les artistes, évidemment, ensemble, font Avignon. Et c'est ça qui est magnifique, quoi.
Les danseurs courent, s'enlacent, tournent en cercle comme un seul corps.
On fait du sol, on est en l'air, on fait des grands gestes, on fait des pas chassés, des déboulés. Non, vraiment, c'est intense comme expérience. Ouais.
Un spectacle énergique, une bouffée d'oxygène malgré le contexte tendu de cette semaine d'élection. Muriel Mahalouf, Victor Hull, Avignon, RFI.
Affirmez, affirmez les pas, affirmez les choses.
Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. 16h10 quasiment ici à Paris, 14h10 en temps universel. Merci à vous.